Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur Radio Kapi. D'abord les titres. La Banque mondiale dote la RDC de médicaments dans le cadre de la lutte contre le Mpox au pays. C'est en réponse à la demande de la coordination des urgences de santé publique en vue d'assurer la prise en charge gratuite des personnes atteintes par cette maladie. Jour J-1 pour la rentrée scolaire 2024-2025 sur toute l'étendue de la République à Beni, en Nord-Kivu. Le chef de la sous-division de l'EPST confirme qu'elle aura bel et bien lieu dans sa juridiction malgré l'appel au boycott par les syndicats des enseignants du Congo SIECO. Notre invité, c'est Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur du Politoscope, une plateforme spécialisée dans l'analyse de la cyberviolence verbale. Il parle de la sensibilisation hier vendredi des étudiants de l'ISP contre les discours de haine et la désinformation. Patience Ngalula Mbombo vous apporte les nouvelles de ce matin. Commençons d'abord par cette information. Le président Félix Tshisekedi révoque Serge Tshibangu Kabeya de sa fonction de haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi. Il est remplacé à ses postes par Sumbusita Mambu. Cette information est rendue publique à travers des ordonnances publiées ce vendredi soir par la porte-parole du président de la République. Lutte contre l'épidémie de Mpox en RDC, la Banque mondiale, à travers les projets REDIS, a remis une dotation de médicaments en réponse à la demande de la coordination des urgences de santé publique, CUSP. Cette dotation d'un poids total de 105 tonnes permettra de couvrir le besoin de plus de 15 000 patients dans 11 provinces, soit plus de 80% des cas recensés. La remise a été faite par Dr. Michel Mouvoudi, représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, jeudi à Kinshasa, au ministre de la Santé. Dr. Roger Kamba a rappelé que la prise en charge des personnes atteintes de Mpox est entièrement gratuite. On écoute Dr. Roger Kamba dans ses propos recueillis par Alain Irung.
C'est vrai que ça va couvrir à peu près 15 000 malades, en sachant que nous avons pour l'instant à peu près, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, un peu plus de 18 000 cas. Donc ça veut dire que ça va couvrir quasiment tous les malades que nous avons maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Comme nous avons décidé que les soins des malades Mpox doivent être gratuits, tout simplement pour que les gens n'aient pas peur de venir aux soins parce qu'ils vont dire « est-ce que je peux payer ?» Je répète encore, les soins sont gratuits et c'est le gouvernement qui prend en charge. Et les kits que nous avons ici de prise en charge et de traitement couvrent quasiment tous les malades. Donc, je remercie beaucoup l'accompagnement de la Banque mondiale, mais je remercie l'accompagnement de tous les partenaires, parce qu'il n'y a pas que l'équipe de traitement, il y a aussi le diagnostic qu'il faut faire, il y a aussi la prévention qu'il faut faire. Nous sommes toujours en train d'attendre que les vaccins arrivent pour protéger les cercles les plus vulnérables, et en ce moment-là, on pourra espérer maîtriser cette épidémie très rapidement. Merci beaucoup pour ce que la Banque mondiale fait.
Pendant 7 ans, dans la province du Bas-Ouélé, les Mpox affectent actuellement où ils ont des santé sur les 11 que compte cette entité. Depuis janvier dernier jusqu'à ces jours, 231 cas ont été enregistrés, dont 11 décès. Compte tenu de la propagation rapide de cette maladie, le médecin chef des divisions provinciales de la santé appelle la population à respecter les mesures barrières pour éviter la contamination. En même temps, Dr. Paulin Poussou plaide pour l'approvisionnement de sa juridiction sanitaire en intrants nécessaires pour la prise en charge des malades. Il a été joint par Jacques Moukonkole.
Les moyens pour la prévention vont nous permettre d'interrompre la chaîne de transmission du réservoir sauvage homme et personne à personne. C'est premièrement d'éviter tout contact avec les vomis, le sel, les urines du malade, le sang, salive. Éviter aussi les contacts directs ou sexuels avec le malade. Éviter tout déplacement du malade de la conception et informer l'infirmier du centre de santé le plus proche. Éviter de manipuler les cadavres suspects au Mpox. Éviter la manipulation et la consommation d'animaux présentant des lésions sur la peau. Pratiquer rigoureusement toutes les mesures d'hygiène élémentaire, notamment lavage de mains avec des savons le plus fréquemment possible. Éviter la manipulation, préparation cas d'animaux malades ou trouvés morts sans raison apparente. Le plaidoyer en faveur d'un appui de la province pour lutter contre le Mpox. Premièrement, nous devons approvisionner la province en intrants de lutte, c'est-à-dire consommables, médicaments et autres, doter la DPS aussi en moyens de déplacement pour les urgences, former les cadres de la DPS en surveillance des maladies intégrées et riposte, puis doter la DPS en moyens de communication dans des zones de santé qui ne sont pas couvertes par les réseaux.
À Bounia, en Ituri, plus de 2800 personnes sont privées d'eau potable dans les quartiers Bankoko, Ngezi et Moudipela depuis bientôt 4 mois. À la base, l'endommagement des tuyauteries lors des travaux en cours des modernisations de la voirie urbaine par les entreprises Safricas et Mongabaon. Les habitants de ces quartiers indiquent que cette situation les expose aux maladies hydriques. L'ONG Sidri, Centre d'initiation de développement rural en Ituri, qui dessert ces entités en eau potable, rassure que ses techniciens sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Reportage Martial Kizabiamungu.
Au quartier Moudipela, passant par celui d'Ngezi et Bankoko, l'eau n'écoule plus au robinet dans plusieurs habitations depuis bientôt 4 mois. Certains habitants sont obligés de faire de longs trajets pour chercher de l'eau potable dans d'autres quartiers de la ville. D'autres se contentent de puiser de l'eau impropre de la rivière Ngezi avec tous les risques possibles de maladies. Ils expriment leur ras-le-bol.
Nous souffrons beaucoup, nos femmes cherchent de l'eau très loin, qu'ils fassent tout pour réparer ces tuyaux. Qu'on puisse trouver de l'eau potable.
Tout en déplorant le préjudice causé par les entreprises Africas et Mogabaon, les responsables de l'ONG Citri, Innocent Gadro, indiquent même que la situation pourra être rétablie dans certains coins de quartier au courant de la semaine prochaine.
Les tuyaux sont arrivés hier seulement. Et maintenant, les services techniques de Citri et avec les techniciens locaux qu'on a formés, on va déjà demain ou après-demain commencer à placer la conduite entre l'hôpital et Ngezi Kappa pour rétablir l'eau jusqu'au niveau de la prison centrale.
Sidri encourage également Mogabaon à coopérer afin que tous les habitants affectés par cette situation aient accès à l'eau potable. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Vous le savez, la rentrée scolaire 2024-2025, c'est lundi 2 septembre sur l'ensemble du pays. À Beni, au Nord Kivu, le chef de la sous-division de l'EPST Beni a rassuré à Radio Okapi qu'elle aura bel et bien lieu dans sa juridiction, malgré l'appel au boycott par les syndicats des enseignants du Congo Sieko. À la même occasion, les parlements d'enfants de Beni plaident auprès des enseignants pour la reprise des cours. André Kitenge nous fait le point.
Cet appel du chef de la sous-division de l'enseignement primaire et secondaire de Beni intervient à la suite de la menace des enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo Sieko de boycotter la rentrée scolaire prévue pour le 2 septembre 2024. Selon Olivier Matsorolenge, chef de la sous-division de l'EPST Beni, la rentrée scolaire doit être effective le lundi 2 septembre prochain, comme fixé par le ministère de l'EPST.
Nous savons que la rentrée scolaire est fixée au lundi 2 septembre à 7h30. La rentrée doit être effective, tout le monde le sait, les enseignants le savent, les enfants le savent, tous nos partenaires savent que la rentrée est fixée au lundi. Le contraire nous étonnerait.
Le Parlement d'enfants de Beni, de son côté, plaide également pour la reprise des enseignements le lundi 2 septembre. Eloge Bakwanama, son président, invite les enseignants à assumer leurs responsabilités afin que les élèves ne soient pas sacrifiés.
À tous les enseignants de pouvoir assumer seulement les responsabilités, ayez ce cœur de nous encadrer du côté des enfants. Je vous dis de reprendre les chemins scolaires. Je crois que nos enseignants ont aussi quand même le cœur.
Rappelons qu'un accord a été trouvé entre les syndicats des enseignants et le banque gouvernementale le samedi 24 août dernier à Kinshasa. Un accord rejeté par certains enseignants, dont ceux de Beni. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Cependant, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC annonce les boycotts de la rentrée scolaire prévue le lundi 2 septembre 2024 sur l'ensemble du pays. Cette structure dit revendiquer l'augmentation de l'enveloppe salariale. Elle a fait savoir hier vendredi à Kinshasa au cours d'une réunion organisée à cet effet. On écoute un extrait de leur déclaration lu par Jean Bosco Puna, secrétaire de la synergie des enseignants de la RDC, au micro d'Étienne Lissumbu.
Réunis en Assemblée générale le vendredi 30 août 2024 à Kinshasa, les enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs, agents et cadres des services centraux ont évalué le compromis trouvé entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation nationale lors de la commission paritaire de Bibwa. Après échange, tous les participants réunis en Assemblée générale ont rejeté la proposition du gouvernement, considérant la modicité chronique des salaires des enseignants depuis plusieurs décennies et considérant la non prise en compte par le gouvernement des revendications urgentes et légitimes des enseignants, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC sur mandat des enseignants réunis en Assemblée générale décide la non reprise du travail dans le secteur de l'éducation nationale le 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national et demande au gouvernement d'organiser la rentrée scolaire le lundi 23 septembre prochain après paiement d'un salaire digne aux enseignants et inspecteurs en vue de garantir la qualité des apprentissages.
Du côté du Sud Kivu, à Minova, Kalehe, à moins de 2 jours de la rentrée scolaire, plus de 60 infrastructures scolaires sont occupées par les déplacés des guerres venus des Masisi au Nord Kivu. L'administrateur de territoire mène un plaidoyer auprès des organisations humanitaires pour ériger dans l'urgence des abris qui vont accueillir ces déplacés afin de libérer les écoles occupées. Des particuliers soucieux de l'éducation des enfants ont disponibilisé leurs propres concessions à titre provisoire. Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, est au micro de Jean Kassami.
En tout cas, nous avons quelques espaces déjà disponibles où on peut déplacer, dégager les locaux des églises ou des écoles. La logistique pose problème parce que les humanitaires disent qu'ils peuvent accompagner, mais pas dans une urgence comme nous le disons. Pour eux, s'il faut des abris d'urgence, ça leur prendra pas moins de 3 mois. Et donc, nous, on s'est dit, il faudrait donc que nous ayons, en tout cas, un coup de main pour voir en quoi on peut dégager les écoles et classes à cet endroit qui nous est déjà accordé par certains propriétaires de concessions.
Parlons justice dans ce journal, procès tentative du coup d'État manqué du 19 mai dernier à Kinshasa. Mon client doit simplement être acquitté car la peine de mort requise par le ministère public contre lui et tous les prévenus ne réprime pas l'infraction pour laquelle il est poursuivi. C'est en ces termes que plaide non coupable l'avocat de l'Américain Benjamin Zalmen, un des insurgés présumés à ces procès. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe a poursuivi ce vendredi dit l'audience publique à la prison militaire d'Indolo. Constituée d'une dizaine de collectifs d'avocats des prévenus, la défense a débuté ses plaidoiries avec les collectifs qui défend Zalmen, suivi de celui qui défend les propriétaires et les personnels de l'hôtel auberge Momo 19 de la commune d'Engaliema qui avait hébergé les prévenus à la veille de leur aventure. Reportage Jeff Ngoy.
Pour le compte de l'Américain Zalmen, Maître Richard Bondo explique du point de vue du droit pourquoi son client doit être acquitté.
Le texte qui réprime toutes les infractions là par la peine capitale est amputé, c'est-à-dire la loi devient ambiguë parce que vous avez commis l'attentat, mais même si c'est établi, vous serez condamné à quelle peine? Parce que la loi érigeant la peine de mort comme peine a été abolie en 2006 par la Constitution.
Un autre collectif ayant plaidé à cette audience, c'est celui des avocats de l'hôtel chez Momo Auberge 19. Selon leur conseil Théodore Mukendi, on ne peut pas les condamner, car étant un établissement commercial, il reçoit sans distinction tout client qui paye sans chercher à connaître ses projets.
Celui que nous avons découvert par après comme étant M. Christian Malanga, mais il s'est présenté chez Momo Auberge avec une carte d'électeur d'un Congolais au nom de David Kumasamba. Il a accepté de payer les services que nous pouvions lui offrir. Ce n'est pas en recevant un client qu'on devient son complice, tant qu'on n'est pas informé des méfaits ou bien de ses mauvais projets.
Commencé le 7 juin, le procès amorce son dernier virage. Jusque-là, 9 prévenus sur 51 viennent de plaider non coupables. La prochaine audience pour la suite des plaidoiries est prévue le 2 septembre.
Dans la province de La Tchopo, deuxième jour d'audience foraine ce vendredi à la place des martyrs de la ville de Kisangani. En effet, le tribunal militaire des garnisons de Kisangani instruit actuellement en procédure de flagrance les dossiers des 8 prévenus, dont 2 femmes. Tous sont poursuivis par l'auditeur militaire des garnisons pour plusieurs chefs d'accusation, notamment terrorisme, participation au mouvement insurrectionnel, meurtre, coups et blessures volontaires. Rappelons que ces personnes sont des présumés auteurs de meurtre des 4 membres d'une même famille lundi dernier au PK-10 sur la route de Yangambi. Au Nord Kivu, la mairie de Goma prévient la population de l'existence d'un groupe des saboteurs du réseau électrique en vue de favoriser l'insécurité dans la ville. Dans un communiqué signé le 28 août 2024 par le commissaire supérieur principal Faustin Kapend-Kamand, maire de Goma, il apparaît que des individus se présentant comme agents des sociétés d'électricité tripotent les installations électriques en vue de priver des lumières les quartiers ciblés pour opérer plus aisément dans l'obscurité. Chris Mukand.
C'est dans le souci de faire échec à ce nouveau mode opératoire que l'autorité urbaine demande aux sociétés d'électricité d'établir pour leurs agents de terrain des ordres de service en bonne et due forme. Ces documents devraient par ailleurs porter le visa de l'autorité de la ville. Les responsables des entreprises susvisées sont appelés à se conformer sans délai à cette disposition, insiste le maire de Goma. Quant à la population, elle est encouragée à prêter attention à quiconque tenterait de grimper à un poteau électrique ou à manipuler toute autre installation électrique à travers la ville, qu'il arbore ou pas, un gilet distinctif ou tout autre équipement individuel. Dans la même veine, le maire de Goma a accusé réception cette semaine d'une lettre que lui adressait le Parlement des jeunes. Cette structure lui demande d'intervenir auprès des sociétés d'électricité en vue d'alimenter les dispositifs d'éclairage public déjà existants en énergie électrique pour contribuer à la lutte contre la criminalité urbaine. Une démarche qui entre dans le cadre de l'opération Goma contre Giza, campagne visant à encourager chaque habitant d'un quartier à installer de la lumière dans son environnement immédiat dans l'espoir de dissuader d'éventuels bandits. Chris Mukonde, Radio Kapi, Goma.
Actualité internationale.
Au Cameroun, quelques heures avant que l'organe en charge des élections clôture les inscriptions sur les listes électorales, c'est 31 août à 14 heures comme prévu par les textes, les électeurs se pressent pour s'enregistrer. Les sites d'inscription ne désemplissent pas, envahis par des retardataires qui veulent prendre part aux prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle prévue fin 2025.
L'invité.
Notre invité est Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur du Politoscope, une plateforme spécialisée dans l'analyse de la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Hier vendredi, cet analyste politique a pris part comme intervenant à un atelier organisé par la MONUSCO à Kinshasa pour sensibiliser une 60aine d'étudiants de l'Institut supérieur pédagogique sur ces enjeux. Pourquoi faut-il sensibiliser les étudiants sur la désinformation, les discours de haine? Quel rôle ces jeunes peuvent jouer pour assainir l'espace numérique congolais? Christian Moleka s'entretient avec Poli Mouzalia.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi est-il important d'après vous de cibler particulièrement des étudiants sur des questions liées à la désinformation et au discours de haine?
Déjà parce que la jeunesse constitue la portion la plus importante de la population au Congo, mais également la portion la plus importante sur le numérique notamment. Et donc dans un environnement où le numérique prend de plus en plus de la place comme espace d'expression, si on veut toucher la portion la plus importante, il faut toucher les jeunes et donc les étudiants qui sont également les futurs décideurs. Parce qu'autant on forme la portion la plus importante, autant on prépare ceux qui demain prendront la relève pour la décision politique.
Peut-on dire que le milieu universitaire est un terreau fertile pour la propagation des fausses informations et des propos violents?
C'est un milieu propice à la rumeur. L'environnement universitaire est marqué par les rumeurs de tout genre. C'est un milieu également où peuples peuvent circuler très facilement les idées liées à la fois au nombre à la fréquentation de sites, mais également à la circulation des idées. Et donc, si on veut gérer les espaces des idées, on doit gérer les universités qui sont également des lieux de grande fécondité de la création. Et donc, si on sait féconder ces lieux-là, ça pourra participer à impacter plus grandement également la société.
D'après vous, Christian Moleka, quels sont les défis spécifiques auxquels les jeunes étudiants congolais font face dans un environnement en ligne marqué par la désinformation et parfois des propos violents.
Le grand défi, c'est la capacité à développer un sens critique. Il faut que nos jeunes développent la capacité à critiquer l'information. Tout ce qu'on voit n'est pas vrai, tout ce qu'on écoute n'est pas forcément vrai. Il faut savoir démêler le vrai du faux et donc développer la capacité à identifier l'infox, à faire le monitoring de l'infox pour que l'on ne soit pas manipulé par la mauvaise information.
Quelles sont les principales formes de désinformation et de discours de haine que vous avez répertoriées en milieu universitaire et de quelle manière ces contenus peuvent impacter la société congolaise dans son ensemble?
L'histoire nous a démontré qu'il y a beaucoup de mouvements universitaires qui sont partis d'infos, de rumeurs. Moi-même, en tant qu'étudiant, j'ai partagé d'ailleurs mon expérience en 2001. À l'UNIKIN, nous avons vécu un cas de rumeurs autour des frais qui a été l'origine des grandes émeutes. Et donc, si on veut gérer la quiétude au sein de l'université, il faut gérer également la capacité des étudiants à discerner les vrais du faux et à ne pas être manipulé par les grandes mobilisations. Ensuite, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un vrai travail des manipulations de masse qui se met en place à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et donc, nous avons nos jeunes également qui sont exposés à cette manipulation plus politique. Et donc, il faut travailler à leur donner des capacités critiques afin qu'ils soient d'abord eux-mêmes des hommes assez stables, capables de s'informer en qualité, mais en même temps capables de ne pas relayer par leur propre responsabilité des fausses informations.
Oui, l'exemple que vous venez de citer est relativement ancien. Avez-vous des exemples plus récents qui illustrent les dangers des fausses informations, notamment en milieu universitaire?
Par exemple, on a discuté avec nos amis de l'ISP Gombe sur des rumeurs que des étudiants appartenant à telle ou telle catégorie ethnique étaient favorisés par rapport à d'autres. Des tels cas de désinformation sont à l'origine des tensions. On a également parlé de la collation, de l'activité de collation organisée récemment à l'université, où on a eu des cas de fabrication des faux billets et qui a créé de la désinformation et qui a conduit même à des tensions entre différentes factions. Donc ce sont des cas documentés avec lesquels on a changé avec les étudiants pour leur permettre de mieux comprendre que c'est pas une réalité lointaine, qui est une fictive, mais une réalité réelle qui se passe autour d'eux et qui doivent apprendre eux à être des acteurs, participatifs.
Comment voyez-vous le rôle des étudiants dans la lutte contre les discours de haine et la désinformation en République démocratique du Congo? Quels conseils vous leur donneriez pour qu'ils deviennent des acteurs de changement positif dans ce domaine?
Les jeunes ont un rôle majeur, comme je dis, qui sont le plus actifs. Donc, ils peuvent déjà signaler cette capacité à signaler les mauvaises informations. Ils peuvent le faire, donc ils peuvent être des veilleurs sur web. Ils peuvent participer à couper la chaîne de transmission en refusant de partager les mauvaises informations parce que cette chaîne de viralité se construit par le fait que nous participons tous à partager l'information. Et donc, dès qu'il est l'instant où il prend conscience qu'il peut signaler, qu'il peut couper la chaîne de transmission de l'information, il devient un acteur actif, d'autant plus qu'il ne produit pas la violence et donc il participe à assainir un débat public sain sur l'espace. On peut ajouter également sur la citoyenneté numérique parce que dès l'instant où j'arrête de former de la fausse information ou à domaine de la violence numérique, j'entretiens une citoyenneté numérique qui permet d'avoir un espace numérique assaini.
Christian Moleka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition d'information. Jean-Noël Mokondo a assuré sa mise en onde. Alain Rung Mouchinge l'a préparé pour vous. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci de nous avoir prêté oreille attentive.